Théologie biblique par le Père Philippe, Saint Joseph, 8 janvier 85.
Indépendamment du temps liturgique, nous continuons l'Exode pour essayer de pénétrer dans le mystère de Moïse, découvrir dans Moïse le grand médiateur. Qu'est-ce que c'est que l'envoyé de Dieu ? Parce que, en définitive, c'est ça. Un médiateur, c'est toujours un envoyé de Dieu. Et on est envoyé de Dieu sous des points de vue très différents. Et Moïse est envoyé de Dieu d'une façon très particulière, puisqu'il est l'envoyé pour le salut de son peuple. Et c'est en ce sens-là qu'il y aura une préfiguration entre Moïse et Jésus, entre Moïse et Marie. Les deux médiateurs. Alors, je crois que nous étions au chapitre 14. Il y avait parlé à Moïse en ces termes, « Dis aux fils d'Israël qu'ils reviennent et qu'ils campent en face de Pi-Aria, Aïroth, entre Migdot et la mer. En face de Baal-Séphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu, au bord de la mer. Pharaon se dira des fils d'Israël. Ils sont affolés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. Je ferai s'obstiner le cœur du Pharaon. Il les poursuivra, mais je tirerai gloire de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. » Les fils d'Israël firent ainsi. Alors vous voyez toujours cette question qu'il faudrait souligner avec beaucoup de force et peut-être même essayer de voir toutes les modalités et les nuances. Ce que la théologie dira ensuite des permissions de Dieu. Le langage de l'Écriture, qui est un langage symbolique, a un aspect beaucoup plus positif. Et c'est ce qui fait comprendre comment Calvin est arrivé à son point de vue. Pour saint Thomas, la prédestination est positive. La réprobation est négative. Je ne peux pas dire que Dieu réprouve positivement quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on dira il y a une permission de Dieu et Dieu laisse le libre arbitre. Mais dans le langage de l'Écriture, qui est un langage symbolique, on nous dit ceci, je ferai s'obstiner le cœur de Pharaon. Je ferai s'obstiner. C'est positif comme langage. Hein. Faire s'obstiner le cœur du Pharaon. Oui. Et ceci toujours pour mieux comprendre ce petit passage si important dans l'évangile de Saint-Luc, dans l'évangile de Saint-Jean, quand Jean essaie de comprendre, au terme de toute la vie apostolique de Jésus, pourquoi le peuple d'Israël n'a pas reconnu le Christ. Le Messie. Je crois qu'on peut dire qu'il y a, à travers toute l'Écriture, constamment ce langage qui est positif au niveau symbolique, donc qui est une espèce d'anthropomorphisme, si vous voulez. Au point de vue humain, nous avons des gestes de miséricorde et nous avons des gestes de justice et de colère. Et c'est positif des deux côtés. Il est bien évident que Dieu n'a pas vis-à-vis du Pharaon un geste de miséricorde et de douceur. Puisque le Pharaon s'obstine, eh bien Dieu lui-même va le punir. Ça fait partie de la colère de Dieu. Je ferai s'obstiner le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Et en les poursuivant, il se met dans une situation impossible. Il n'a pas garanti ses arrières, hein, point de vue stratégique. Il s'est laissé entraîner et entraîner le plus loin possible. Et Dieu laisse s'obstiner le cœur du Pharaon, le cœur du Pharaon. Les fils d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Alors le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait là de renvoyer Israël qui ne nous servira plus? Alors tout de suite, hein, dès qu'on annonce que le peuple d'Israël est parti, le Pharaon a donné la permission. Devant le coup de l'ange exterminateur, hein, ce que nous avions vu la dernière fois. Ce passage extraordinaire. Je voudrais le relire, j'avais envie de le reprendre, mais il faut avancer un peu. Parce que c'est un passage très étonnant. Le point de vue de l'ange exterminateur et puis la colère du Pharaon. Alors, sous l'effet de la colère, il permet. Mais dès qu'il est devant la réalité, alors il se ravise. Il va perdre tous ses esclaves. C'est une pure perte. Hein. Qu'avons-nous fait là ? De renvoyer Israël, qui ne nous servira plus. Il fit atteler son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Alors pensez, n'est-ce pas, au psaume. Quand on voit ça, toujours penser à ce psaume sur les chars du Pharaon. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Avec des écuyers sur chacun d'eux. Yahvé fit s'obstiner le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Donc la même chose. Yahvé fit s'obstiner le cœur du Pharaon. Et il se lança à la poursuite des fils d'Israël. Des fils d'Israël qui sortaient la main levée. Les Égyptiens se lancèrent donc à leur poursuite. Ils les atteignirent, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses chevaliers et son armée, ses cavaliers et son armée, comme ils campaient au bord de la mer, près de Pith-Aroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'avançaient derrière eux. Les fils d'Israël eurent grand peur. Et ça fait prier ça. Et ils crièrent vers Yahvé. Comme pendant les guerres, c'est toujours comme ça. Le peuple redevient pieux par crainte. La crainte est le début de la sagesse, hein, faut pas l'oublier. Alors on voit bien ça. C'est un bon moyen. Rendre le noviciat un peu plus pieux, vous voyez, c'est de faire un peu craindre comme ça, mettre les chars des pharaons par derrière. Hein. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il donc pas de tombeau en Égypte que tu nous en aies emmené mourir au désert? Que nous as-tu fait là de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, en ces termes? Laisse-nous servir l'Égypte. Mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir au désert. C'est aussi très intéressant, la psychologie du peuple, de la masse. Vous voyez, on oublie la finalité. On les fait sortir de l'Égypte dans le désert pour adorer Dieu, qu'ils ne pouvaient plus adorer en étant esclaves du Pharaon. Eux ne voient que les deux états. C'est ça qui est important à souligner, parce que ça c'est la psychologie de la masse. La psychologie de la masse, de toute masse, hein, n'importe lesquelles, de tout groupe, de toute collectivité, c'est de se laisser emporter par le point de vue du conditionnement. Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, tenez ferme, et vous verrez le salut que Yahvé opérera pour vous aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. Yahvé combattira pour vous, vous n'aurez vous qu'à vous tenir tranquille. » Yahvé dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux fils d'Israël de partir, et toi, élève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la, pour que les fils d'Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, voici que je fais s'obstiner le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent derrière eux, et que je tire gloire de Pharaon, de toute son armée, de tous ses chars et de ses cavaliers. » Alors l'obstination s'étend sur tout le peuple, hein, vous voyez bien. « Et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand je tirerai gloire de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et cette nuée était ténèbre et éclairait la nuit, en sorte que l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Donc un signe, vous voyez, comme si Dieu maintenait la différence, la distance. C'est bien dit comme une action directe de Dieu, avec un signe pour montrer qu'on ne peut pas s'approcher de l'armée. Moïse étendit sa main sur la mer, et Yahvé fit refouler la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Alors, certains diront phénomène purement naturel. Là, ils oublient le bâton levé que Dieu donne comme un signe, comme un sacrement. C'est un signe efficace qui agit jusqu'à la mer Rouge. Moïse étendit sa main sur la mer et Yahvé fit refouler la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il fit de la mer une terre ferme et les eaux se fendirent. On voit tout ça, ces miniatures qui ont été faites sur la mer Rouge et sur le passage, très bien, ce mur d'eau qui montre admirablement. C'est sûrement pas passé comme ça. Ça, c'est l'imagination pieuse. Alors, évidemment, ça a beaucoup plus d'effet de passer un tunnel d'eau. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il se passait à travers ces deux murailles, une muraille d'eau. Ça ne s'est pas passé comme ça. Du reste, c'est souligné que ce n'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé tout simplement par un phénomène, c'est très possible, naturel, mais charismatique, en ce sens que ça s'est passé juste à ce moment-là. Alors ça c'est merveilleux, c'est l'occasion qui fait le brigand. Hein. On est arrivé juste au bon moment. Et ceci a été précisé par le geste de Moïse. Donc il ne faut pas s'affoler du tout devant ce genre d'explication matérialiste, parce que ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas du tout la coïncidence. Et c'est là où la providence joue. C'est la providence. Eh bien, on l'a dit pour l'attentat du Saint-Père, le signe le plus providentiel, c'est quand le pape est arrivé à l'hôpital, il y avait les médecins, les chirurgiens qualifiés pour cela, qui étaient juste à cet hôpital pour opérer quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas venu. Et c'est le pape à la place. Alors, ça, si on ne dit pas qu'il y a un miracle là, je n'y comprends rien. Il y a une coïncidence. Oui, mais ça réussit rarement, ce genre de coïncidence. Alors là, on voit le petit coup de pouce de Dieu. Enfin, c'est ça. Et c'est ça, la lecture divine des événements, où on voit comment Dieu, de fait, est là présent. Et là, vous voyez, c'est mis de cette manière-là. C'est ça qui est très, très beau, parce que ça nous est montré. Moïse étendit sa main sur la mer. Donc, c'est lui qui donne le signal. Il donne le signal à Dieu. C'est merveilleux. Et Dieu va exécuter. Et Yahvé, eh bien, Dieu exécute. Et Yahvé fit refouler la mer. Il le fit refouler la mer comment? Il aurait pu tout simplement dire « Mer, recule ». Alors à ce moment-là, on aurait vu c'est à travers, les miniatures, l'eau qui tout d'un coup s'arrête. Ah, c'est pas ça. Et c'est ça qui est très beau. Yahvé fit refouler la mer par un fort vent d'est durant toute la nuit. Il s'est servi du vent pour faire refouler. Et pour faire qu'il y ait un passage à un gué à pied sec. Et fit de la mer une terre ferme. Alors là, évidemment, c'est pas tout à fait juste. La transsubstantiation de la mer en terre ferme, c'est particulier. Il fit de la mer une terre ferme. Et les eaux se fendirent. Alors, c'est la seconde partie, vous voyez, entre les eaux se fendirent. Il y a eu comme une division. Mais c'est en conséquence. On nous a donné la cause avant. Les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer, à pied sec. Les eaux leur formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Voilà la miniature. C'est très beau, ça. C'est très, très beau. On a le style poétique le plus merveilleux pour exprimer tout simplement un fait providentiel, étonnant. C'est Dieu qui est intervenu. Il est intervenu de façon directe. Et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux leur formaient une muraille à leur droite et leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, sans permission là. Parce que c'est leur cœur qui s'endurcit et qui veulent à tout prix atteindre Israël. Sans se demander, n'y a-t-il pas là quelque chose de particulier? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui va faire une première clôture, voyez, entre le peuple d'Israël et les Égyptiens? Et c'est Dieu lui-même qui fabrique cette clôture. Eux continuent. Pénétrèrent derrière eux tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, au milieu de la mer. Or, à la veille du matin, il y avait de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il envoya les roues de leurs chars qu'on ne faisait plus avancer qu'à grand-peine. Enraya les roues de leur char, qu'on ne faisait plus avancer qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent « Fuyons de devant Israël, car Yahvé combat pour eux contre l'Égypte. » Yahvé dit à Moïse « Étends la main sur la mer, et que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Alors là, évidemment, c'est plus difficile à expliquer, vous comprenez? Ce double mouvement de va-et-vient, le flux et le reflux, n'est-ce pas? D'un côté, ça s'égrate, puis au bon moment, ça retombe de côté, n'est-ce pas? S'il n'y a pas une certaine intervention de Dieu miraculeuse. Moïse étendit sa main sur la mer, et au tournant du matin, la mer revint à son niveau, tandis que dans leur fuite, les Égyptiens marchaient à sa rencontre. Yahvé culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré dans la mer derrière les fils d'Israël. il n'en resta pas un seul. Quant aux fils d'Israël, ils avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux leur formant une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, Yahvé sauva Israël des mains des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit la grande puissance qu'avait mise en œuvre Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé et il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Vous voyez, c'est, je crois, la première fois, je crois, je n'ose pas l'affirmer de façon absolue, mais je crois que c'est la première fois où on voit un acte de foi qui porte sur Dieu et sur son instrument. Ça, on voit constamment dans l'Évangile par rapport au Christ. Celui qui croit en moi croit aussi dans le Père, celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en moi croit aussi dans celui qui est envoyé. Vous voyez le lien. Eh bien, c'est la première fois ici. Et le peuple craignit Yahvé et il crut en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Donc, intervention miraculeuse de Dieu pour l'efficacité de la Pâque. L'efficacité de la Pâque, l'efficacité de cette première Pâque, avec l'ange exterminateur, n'a eu qu'un effet très momentané sur le cœur du Pharaon. Et dès que le Pharaon est revenu à lui-même, dès qu'il est revenu à lui-même, il a regretté son geste. Il est tenace. Et alors c'est à ce moment-là que Dieu donne à Moïse le plan qu'il faut faire. Comment faut-il aller vers la terre promise? Il faut y aller en traversant la mer. Les Égyptiens sont tout proches. Hein? Donc, stratégie divine. Et Dieu montre sa toute-puissance au service de son peuple. Et cette toute-puissance au service de son peuple a un double effet, à la fois d'augmenter la crainte et la foi, et d'autre part, d'augmenter la gloire. Alors, augmenter la gloire, c'est le grand cantique de Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahvé, ils dirent. Donc le grand magnificat de Moïse. Et c'est le grand magnificat de Moïse, donc, qu'il faut. Quand on fait le parallélisme entre Moïse et Marie. Hein. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahvé. Ils dirent : je veux chanter pour Yahvé, car il a déployé sa grandeur. Cheval et cavalier, il les a jetés à la mer. Ma force et mon hymne, c'est Yahvé. Il devint pour moi le salut. Il est mon Dieu et je le célébrerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Yahvé est un guerrier, son nom est Yahvé. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses écuyers s'est enfoncée dans la mer des joncs. Les abîmes les recouvrent. Ils sont descendus dans les gouffres comme pierre. Ta droite, Yahvé, resplendit de vigueur. Ta droite, Yahvé, écrase l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses les agresseurs. Tu déchaînes leurs courroux. Ils les dévorent comme de la paille. au souffle de leurs narines. Les eaux s'amoncelèrent, les flots se dressèrent comme un bloc, les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi disait : je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme s'emplira d'eux, je tirerai mon glaive, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a recouverts et sont engouffrés comme du plomb dans les eaux splendides. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé ? Qui est comme toi, splendide en sainteté, terrible en exploit, artisan de merveilles ? Tu étendis ta main, la terre les engloutit. Tu guides par ta fidélité ce peuple que tu as racheté. Tu les conduis par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples l'apprennent et frémissent. Les douleurs saisissent les habitants de Philistie. Alors les chefs d'Édom sont frappés d'épouvante. Le tremblement saisit les princes de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent cœur. Sur eux tombent la terreur et l'effroi. La puissance de leurs bras les rend muets comme la pierre. Tant que passe ton peuple, Yahvé, tant qu'il passe ce peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu dont tu fis ton habitation, Yahvé, au sanctuaire, Yahvé, Seigneur, qu'ont établi tes mains. Yahvé règne à jamais et toujours, car les chevaux de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, avaient pénétré dans la mer, et Yahvé avait fait revenir sur eux les eaux de la mer, tandis que les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Et Myriam leur annonçait : chantez pour Yahvé, car il a déployé sa grandeur. Cheval et cavalier, il les a jetés à la mer. Donc, grand cantique d'action de grâce. C'est pour ça, vous voyez, que si on interprète matériellement ce chapitre 14, si on veut le réduire simplement à des circonstances providentielles, on ne comprend plus du tout le grand cantique d'action de grâce. Il n'y a pas une intervention spéciale de Dieu. C'est ça le miracle. Sous des modalités différentes. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs et se dirigèrent vers le désert de Cour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. 3 jours de marche, hein, n'oubliez pas, c'est ce que Yahvé avait annoncé. 3 jours de marche. 3 jours de marche pour se purifier de tous les idoles. Pas un seul jour de marche, mais 3 jours de marche au désert. Ils marchèrent 3 jours durant le désert sans trouver d'eau. Alors c'est les 3 jours du désert, c'est les 3 jours du sépulcre, vous voyez. Enfin, c'est sûr, c'est bien, les 3 jours toujours. Le mystère du sépulcre est constamment annoncé comme une grande, grande purification pour le cœur de Marie. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère. Voilà pourquoi on l'appela du nom de Mara. Donc c'est un petit jeu de mots, ça c'est facile à comprendre. Le peuple murmura contre Moïse en disant : que boirons-nous ? Alors, souligner, n'est-ce pas, tous les murmures. Parce que c'est la théologie des murmures. La théologie des murmures qui est là très très forte, très puissante. Les murmures, l'intersubjectivité d'opposition vis-à-vis de l'autorité. Et alors, plutôt que d'avoir la franchise de dire directement à l'autorité, il y a telle chose qui ne va pas, telle chose que vous avez dit me blesse, on le dit à son petit copain, parce que pour l'occasion, il devient un petit copain, il n'est plus un frère. Hein, on le dit au petit copain qui s'unit à lui et qui, ensemble, se met à murmurer. Alors, murmure entretient une mauvaise humeur. C'est l'amertume mise en commun. Ça, je crois que c'est très important. Et c'est très important de voir que c'est justement en face du médiateur. Alors, murmure entretient une mauvaise humeur. C'est l'amertume mise en commun. Ça, je crois que c'est très important. Et c'est très important de voir que c'est justement en face du médiateur. Que boirons-nous ? Le peuple murmura contre. Voilà pourquoi on l'appela du nom de Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria vers Yahvé et Yahvé lui indiqua une sorte de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ceci, c'est pour ponctuer, n'est-ce pas ? Bien dommage qu'on n'a pas dit l'espèce de bois, hein. C'est pas en vertu du bois, parce que le bois est un pur instrument, vous voyez. C'est donc pas du tout en vertu du bois, c'est en vertu de l'acte de Yahvé, à travers le bois. Et Yahvé lui indiqua une sorte de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il lui fixa un statut et un droit. C'est là qu'il le fit, qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, donc c'est là qu'il le mit à l'épreuve, il dit, si tu écoutes vraiment la voix de Yahvé, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Car je suis Yahvé qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là, près de l'eau. Il ne faut pas oublier qu'ils sont assez nombreux. Hein. Ils partirent d'Élim, et toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin, Chine. Qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Alors, soulignez le manque de murmure, hein. Ça devient le leitmotiv du désert, ça. Toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Les fils d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts de la main de Yahvé dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des chaudrons de viande, quand nous mangions du pain à satiété, tandis que vous nous avez fait sortir vers ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Vous voyez, ça, c'est le modèle du murmure. C'est les chaudrons. C'est tout à fait ça. Tout le temps. On se rappelle des choses extraordinaires, merveilleuses qu'on avait, puis on regarde l'état pitoyable devant lequel on se trouve. Yahvé dit à Moïse. Alors, vous voyez, toujours les doubles mouvements. Ça, c'est vraiment le médiateur qu'on retrouve là, dans toute sa force. Yahvé dit à Moïse. Voici que du ciel je vais faire pleuvoir pour vous du pain. Vous voyez que ce murmure, hein, je ne dis pas que fait plaisir à Dieu, je ne crois pas. Mais Dieu l'écoute. Pourquoi Dieu l'écoute? À cause de Moïse. C'est pas du tout à cause du murmure, hein. C'est à cause de Moïse. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est Moïse qui reçoit ces murmures. Il les reçoit tous. Or, Moïse a accompli la volonté de Dieu. Quand on accomplit la volonté de Dieu, nécessairement on reçoit les murmures. Ça ne peut pas être autrement. Parce que la volonté de Dieu ne correspond pas du tout à notre volonté, à la volonté de ceux qui sont auprès de nous. Aussi éloigné le ciel, aussi éloigné le ciel de la terre, aussi éloigné la volonté de Dieu que la nôtre. Donc, nécessairement, on reçoit les murmures. Ça ne peut pas être autrement. Si on va trop vite, on reçoit les murmures des petits pas. Et si on va pas assez vite, on reçoit le mur des grands pas. Toujours. Parce qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Et puis, surtout et avant tout, c'est que lorsqu'on est instrument de Dieu, on dit des choses qui ne sont pas adaptées. On dit des choses qui dépassent et qui viennent directement de Dieu. Alors, on comprend très bien, Moïse reçoit tout cela. Il le présente à Dieu. Mais il le transforme en le recevant. Et donc, c'est la prière de Moïse qui est écoutée. Parce que si vous prenez ça matériellement, vous direz, ça y est, j'ai compris. Je tire sur la ficelle, je suis de mauvaise humeur, je murmure, et il sera bien obligé de tirer de l'impasse. L'intermédiaire, le médiateur. Yahvé dit à Moïse, « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir pour vous du pain. Le peuple sortira et ramassera chaque jour ce qu'il faut pour le jour. Je veux l'éprouver pour savoir s'il marchera ou non, suivant ma loi. » Sixième jour, quand il prépareront ce qu'ils auront rapporté. Il y en aura le double de ce qu'ils avaient ramassé chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous saurez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et le matin, vous verrez la gloire de Yahvé, car il a entendu vos murmures contre Yahvé. Nous, en effet, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? » Moïse dit, « Quand Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain, à satisfaire. Quand Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, c'est que Yahvé aura entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, mais contre Yahvé. » Alors ça, c'est le médiateur, hein. Il montre bien. Il fait la volonté de Dieu. Si ses murmures s'opposent contre lui, en réalité, ses murmures s'opposent contre Yahvé. Ah, c'est très beau, ce serait à étudier très près la prière du médiateur, hein. voyez la grande prière de Jésus, qui est la grande prière du médiateur, qui termine toutes ces prières. Hein. La grande prière du Fils bien-aimé. C'est, pour nous, c'est très important, n'est-ce pas, de bien saisir cette grande prière de médiation de Jésus, chapitre 17 dans saint Jean, et de comprendre toutes ces prières intermédiaires. Moïse dit, quand Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain satiété, c'est que Yahvé aura entendu les murmures que vous avez proférés. Moïse dit pas du tout, c'est grâce à moi. Hein. Non, non, c'est vous, vos murmures. Il a entendu ça. Alors comprenez bien. Il dit pas, vous avez entendu vos prières, vos murmures. Que vous avez préféré contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous? Ça, c'est la pauvreté de l'instrument. Il n'est rien. Il reconnaît qu'il n'est rien. Ce n'est pas contre nous que vous dirigez vos murmures, mais contre Yahvé. Moïse dit à Aaron, dit à toute la communauté des fils d'Israël, approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Or, comme Aaron parlait à toute la communauté des fils d'Israël, ils se tournèrent vers le désert. Et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Yahvé parla à Moïse en ces termes. J'ai entendu les murmures des fils d'Israël, parle-leur en ces termes. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasirez de pain. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu. Après la parole, et vous voyez que ça se transmet, hein, toujours un instrument donc jumelé. Et c'est bien ce qu'on voit, hein. Moïse dit à Aaron, mais ce n'est pas Aaron qui est directement lié. Instrument jumelé, les deux instruments jumelés à la croix, Jésus et Marie. Il y a des analogies dans tout ça, c'est bon, qu'il faut essayer de saisir. Parce que tout ça nous conduit au mystère de la croix et au mystère de Marie dans son mystère de compassion. Alors il ne s'agit pas de prendre ça matériellement, parce que ce serait complètement stupide de dire qu'Aaron, c'est la physionomie de Marie, ou c'est la figure de Marie. Non, mais dans certaines fonctions d'Aaron, on retrouve des analogies. Or, le soir, montèrent les cailles qui couvrirent le champ. Et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée se fut élevée, voici que la surface du désert... Voici qu'à la surface du désert, il y avait quelque chose de menu. De granuleux. De menu comme du givre sur la terre. Ça fondait moins vite. Hein. C'est ça qu'il faut bien voir, comme le givre sur la terre. À cette vue, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre. Man ou, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, cela, c'est le pain que Yahvé vous a donné en nourriture. Alors comprenez bien, parce que c'est quand même très beau aussi, cette miséricorde, non plus ici de correction, une miséricorde qui va répondre directement à la nourriture dont le peuple d'Israël a besoin. Donc, préfiguration lointaine, des préfigurations du mystère de l'Eucharistie. Ça, c'est sûr. C'est une des grandes préfigurations à la manne. Alors, les détails qui nous sont donnés pour cette première réalisation de la manne doivent nous aider à comprendre le mystère de l'Eucharistie. Alors, voyez bien, la manne est donnée sans médiateur. Je veux dire là, la manne est donnée sans médiateur et l'Eucharistie est donnée avec un médiateur. Nous aurions fait l'inverse. Pour montrer le prix de l'Eucharistie, on aurait voulu qu'il n'y ait pas de médiateur. C'est l'idée qui est passée une fois dans la cervelle, dans l'intelligence de Luther et de Calvin. Pas dans le cœur. On voit très bien ça. Je crois qu'il faut sentir ça, parce que c'est un des aspects que saint Thomas aime de mettre en lumière, que la nouvelle alliance, Dieu multiplie les instruments. Et si Dieu multiplie les instruments, c'est pour faire surabonder la miséricorde. Ça, c'est extraordinaire, par ça. Dieu multiplie les instruments pour faire surabonder la miséricorde. Parce que chaque fois que Dieu se sert d'un instrument, nécessairement, il communique sa miséricorde. Et si Dieu multiplie les instruments, c'est pour multiplier cette capacité d'amour dans le cœur de l'homme. Donc, il faut bien voir ce phénomène charismatique, ce grand charisme de la manne. À cette vue, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Manne, oh, qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est propre de la manne. Qu'est-ce que c'est ? Mais ça suscite l'admiration, comme l'Eucharistie doit susciter l'admiration. En premier lieu, et on pose la question, qu'est-ce que c'est ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, cela c'est le pain que Yahvé vous a donné en nourriture. Poussez un peu plus, le véritable pain que Yahvé a donné en nourriture, c'est l'Eucharistie. Et nous retrouvons la même formule. Cela c'est le pain que Yahvé vous a donné en nourriture. Voici. Voici ce qu'a commandé Yahvé. Ramassez en chacun d'après ce qu'il mange. Un homère par tête, selon votre nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les fils d'Israël firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait au homère. Celui qui avait plus n'avait pas à en excéder. Et celui qui en avait moins n'en manquait pas. Merveilleux comme préfiguration de la grâce reçue dans l'Eucharistie. Selon le désir de chacun. Oui, vous avez un homère. N'y pensez pas. Vous avez une capacité de réceptivité. Et c'est cette capacité de réceptivité qui est diverse pour chacun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la source de miséricorde et d'amour de l'Eucharistie comble la capacité de chacun, selon les désirs de chacun. Et ceci, c'est tout à fait juste par rapport à l'Eucharistie. Et c'est manifesté ici d'une façon symbolique, d'une façon un peu matérielle, mais d'une façon symbolique, pour que chacun puisse recevoir autant qu'il lui est nécessaire. Et Saint Thomas poussera ça jusqu'au bout avec la vision béatifique. Suivant votre degré d'amour et donc de désir et de votre capacité de recevoir, vous recevrez la lumière béatifique, le Lumen Gloriae, la lumière de gloire. Et cette lumière de gloire fera que chacun sera totalement satisfait. On ne pourra rien lui ajouter. Vous voyez, c'est curieux, parce que ça, c'est le premier moment. Alors, c'est toujours intéressant. Ce premier moment, l'Eucharistie, la vision béatifique. Et vous retrouvez quelque chose d'analogue dans ces trois, qui nous montre ce qu'est le gouvernement divin. La manière dont Dieu gouverne, la manière dont Dieu conduit, la manière dont se donne l'amour. Du côté de Dieu, il n'y a pas de limite. Les limites viennent de celui qui reçoit. Il est évident qu'il n'y a pas de limite dans l'amour de Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Il n'y a pas de limite. Les limites viennent de celui qui le reçoit. Celui qui reçoit l'Eucharistie, nécessairement reçoit selon ses capacités. Si ses capacités sont énormes, il reçoit beaucoup. S'il a un tout petit désir. Les fils d'Israël firent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait au homer, celui qui avait plus n'avait pas en excédent, et celui qui avait moins n'en manquait pas. Chacun avait ramassé d'après ce qu'il mangeait. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et des gens en laissèrent jusqu'au matin. Les vers s'y mirent et cela fut infect. C'était très vite, hein ? On est au désert, je sais bien. C'est chaud. Pas le droit de garder pour le lendemain. C'est aussi extraordinaire, ça. Communion quotidienne. Hein. Pas le droit de dire, j'ai la communion pour la semaine. Non, non. Communion quotidienne, chaque jour. Comme vous ne pouvez pas manger vous mangez pour chaque jour. Évidemment, de temps en temps, vous allez dire, il y a la Grèce qui fait des réserves. Oui, oui, oui. Ça, c'est en dehors de l'économie divine. Tandis que l'économie divine, c'est vraiment cette soif et ce désir de chacun. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Hein. Il y a les murmures et puis la désobéissance. Hein. Voilà les deux choses. Et des gens se laissèrent jusqu'au matin. Les vers s'y mirent et cela fut infect. Moïse s'irrita contre eux. Première colère de Moïse. Notez toutes les colères de Moïse, faites la théologie de la colère de Moïse. Ça en vaut la peine, parce que c'est un homme qui a de saintes colères, et de fortes colères, Moïse. C'est l'homme le plus doux qui fut au monde, mais c'est l'homme en même temps qui est pas mal colérique. C'est bon pour un médiateur, hein, vous voyez, ça fait partie du médiateur. Il doit être un homme fort, extrêmement doux, mais il doit être un homme fort. Et un homme fort, c'est celui qui contient ses colères. Il les contient. S'il ne les contenait pas, il serait tout le temps en colère. Moïse s'irrita contre eux. Ils en ramassèrent donc tous les matins, chacun selon qu'il mangeait. Et quand le soleil chauffait, cela fondait. On a beaucoup cherché. Hein. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas un petit bout de manne qui demeure. On l'enverrait pour l'étudier chimiquement, pour savoir exactement ce que c'est. Heureusement que ce miracle a eu lieu avant, pour qu'on ne puisse pas savoir exactement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Manne, manne, qu'est-ce que c'est ? On reste là, en face de l'admiration, du miracle par excellence, qui signifie l'amour par excellence de l'Eucharistie. Comme charisme, c'est merveilleux. Hein, c'est un charisme étonnant, ça. Le sixième jour, ils ramassèrent le double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les princes de la communauté vinrent en informer Moïse. Il leur dit, c'est ce qu'a dit Yahvé. Demain est un repos sabbatique, un sabbat consacré à Yahvé. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et tout l'excédent, mettez-le de côté pour le garder jusqu'au matin. Ils le mirent de côté jusqu'au matin, selon ce qu'il avait commandé. Moïse, et ce ne fut pas un fait. Pardon, selon ce qu'avait commandé Moïse, et ce ne fut pas un fait, il n'y avait pas de vermine. Moïse dit, mange-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui un sabbat pour Yahvé. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e, c'est un sabbat. Il n'y en aura pas. Alors c'est pour marquer encore le sabbat, consacrer davantage le sabbat, montrer que Dieu veut ce repos intégral. Et c'est des accumulations comme ça, pour faire comprendre ce que c'est que le sabbat. Et Dieu veut, puisque Dieu veut éduquer son peuple au désert. Alors là, c'est l'inverse, on pourrait dire, de l'Eucharistie. C'est l'inverse de l'Eucharistie, puisque le sabbat doit être au contraire le jour de l'Eucharistie. Et on voit bien ce que ça représente, justement, comme nourriture supplémentaire. Faisons attention, c'est une analogie. Il y a des points sur lesquels ça porte, et d'autres points, ça ne porte pas du tout. Or, le 7e jour, des gens sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors Yahvé dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Voyez, parce que Yahvé vous a donné le sabbat, et c'est pour cela qu'il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Restez donc chacun à sa place, que nul ne sorte le 7e jour du lieu où il est. Le peuple chôma le 7e jour. Donc on respecte le sabbat jusqu'à la manne. La maison d'Israël l'appela du nom de manne. C'était comme de la graine de coriandre. C'était blanc, et cela avait un goût de galette ou miel. Moïse dit, voici ce qu'a commandé Yahvé, remplissez-en un homer, afin de le garder pour toutes vos générations. De la sorte, ils verront le pain que je vous ai donné, que je vous ai fait manger au désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un récipient, mets-y un plein homer de manne et dépose-le devant Yahvé, afin de le garder pour toutes vos générations. Celui-là ne va pas se corrompre. Vous voyez, c'est 3 aspects différents. C'est très curieux. Pour bien montrer l'intervention directe de Dieu, pour bien montrer que c'est l'aliment qui dépend direct de Dieu et qui est donné verticalement par Dieu. On gardera, c'est pour ça qu'on le mettra dans... C'est comme une présence de Dieu. Et dans l'alliance, dans l'arche d'alliance, on gardera ça.